De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 euros par personne. Offre soumise à condition.
À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Irène Théry. Ce soir, comment faire de la sociologie avec Proust.
Irène Théry, bonjour.
Bonjour Alexandre Breton.
Vous êtes sociologue spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée. Vos livres, Le démariage, La distinction de sexe ou Des humains comme les autres, pour n'en citer que trois majeurs, apportent un éclairage particulièrement fécond sur les changements de la famille, les transformations contemporaines de la famille, mais aussi sur les distinctions masculin-féminin. Vous vous recommandez d'une approche relationnelle du genre qui n'est pas identitaire. De ce point de vue-là, vous êtes à contre-courant, peut-être même d'une approche plus généralement admise ou entendue. Mais vous n'étiez pas destiné initialement à être sociologue. Ce n'était pas un choix initial pour vous.
Ah oui, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait des études purement littéraires. Et j'étais destinée à être enseigner la littérature, à faire une thèse sur Proust. Et effectivement, jamais je n'aurais imaginé, en 1972, quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai réussi Normale Sup Fontenay, que cette rencontre avec Paris allait changer complètement ma vie, en fait.
Qu'est-ce qui change votre vie à ce moment-là ?
Eh bien, ce qui change ma vie, c'est de découvrir le monde étudiant parisien. L'agitation politique de ces années-là, quand on arrivait à Normale Sup, la première chose qu'on devait faire, c'était aller faire une maîtrise. Donc je découvre le parvis de Jussieu. Le parvis de Jussieu, c'était des discussions toute la journée de toutes les organisations politiques imaginables. Et moi qui finalement ne m'étais jamais tellement passionnée pour ça, j'étais certainement une personne de gauche, mais en même temps, si vous voulez, c'est une tradition familiale. En mai 68, j'avais 16 ans, il y avait les manifestations, mais au premier rang, il y avait mon père qui était un militant du SNESUP. Et dans mon lycée de filles d'Aix, lycée Cézanne d'Aix, les revendications n'étaient jamais allées très loin. On avait demandé à ne plus porter de blouse, à faire de l'autodiscipline, à pouvoir fumer dans la cour. On était resté très loin des débats très politiques des Parisiens. Et donc j'arrive à Paris. Et là, je suis saisie, je dois dire, par les charmes de la radicalité politique. C'est quelque chose d'assez banal quand on est jeune, je pense, d'être fasciné par la radicalité, c'est-à-dire ça nous apparaît comme l'absence totale de compromis, de compromission avec ce monde et une sorte de dévoilement finalement de ses illusions. Et donc j'ai été tout à fait fasciné par ça et j'ai passé ma première année à m'intéresser au militantisme. Et ce qui a finalement fait basculer les choses, c'est que je suis entré dans une petite organisation, un peu par hasard, celle qui s'était trouvée là, qui était une petite organisation issue de la Ligue communiste révolutionnaire. Et ce qui a fait basculer les choses, c'est qu'en fait, quelques mois après, il y a eu le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili. J'ai été très impliquée tout de suite dans les manifestations, puis la constitution d'un comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Et donc, mon engagement, la direction de ce comité, avec beaucoup d'autres, a donné une sorte de pérennité à l'engagement. Et c'était parti pour presque 7 ans d'engagement militant à temps plein.
Voilà. Qu'est-ce qui animait ou nourrissait cet engagement ?
C'est compliqué à dire, parce que... Évidemment, avec le recul, on voit les conneries qu'on a pu dire. Moi, j'ai dit « élection piège à con », ça, je l'ai dit. J'ai dit ça, j'ai soutenu... j'avais une affiche chez moi, Vietnam, Laos, Cambodge, victoire. Et donc, évidemment, quand on a découvert ce que c'était que les Khmers rouges, j'ai eu assez honte d'avoir eu cette affiche. Bon, il y avait l'effet de groupe, une sorte, forcément des formes de dogmatisme, d'enrégimentement. On est bien quand on se tient chaud comme ça. Et par exemple, moi j'étais à la fois dans ce groupe, un petit peu loin quand même, par exemple, il était interdit dans mon organisation de passer l'agrégation. C'était considéré comme bourgeois. Bon, j'ai quand même passé l'agrégation en 75 en cachette. Bon, ce qui m'a amené, par exemple, lors d'un stage de formation léniniste à Gourgaz, dans les Cévennes, à téléphoner clandestinement pour savoir si j'avais réussi et à boire un petit pastis avec quelques complices sans rien dire à mes chefs. Voilà. Donc, il y avait l'enregistrement et j'ai pas de tendresse pour ça. Mais en même temps, ce que je n'ai jamais oublié, c'est qu'avec ça, il y avait la générosité d'un engagement. C'est vrai qu'il y avait l'engagement pour le Chili, c'était très important. Il y avait la solidarité pour les ouvriers. Moi, j'allais distribuer des tracts devant des usines du 93 ou du 92. Il y avait quelque chose dans cet apprentissage de la vie qui donnait quelque chose de plus grand que soi dans la solidarité avec ceux qui luttaient pour leur émancipation. Voilà. Donc, j'essaye de garder les deux aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, il y a quand même cette tension entre les deux. C'est abîmé, on peut dire, dans la fin de l'extrême-gauche, fin des années 70. Et à ce moment-là, j'ai entamé un tournant, on va dire, réformiste. Voilà, j'ai abandonné toute idée de révolution. J'ai fait un tournant, qu'on peut dire, vers ce qu'on appelle la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche antitotalitaire. Je suis devenu une fervente défendresse de la démocratie, dont j'avais cru avant pouvoir dénoncer justement les apparences. Et c'est un choix qui ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui.
Parallèlement, vous travaillez sur Proust.
Alors parallèlement, je ne travaillais pas sur Proust, j'avais l'idée plus tard de le faire. Par contre, parallèlement à cet engagement dans l'extrême-gauche, il y avait quelque chose qui en est resté de plus profond, on va dire, que ce moment, même si je n'ai rien oublié, encore une fois, de mes engagements de solidarité internationaliste, par exemple, et qui vibre encore chez moi, je pense, c'est le fait que, au moment où je renonçais à l'idée d'une révolution, il y a quand même une révolution qui se passait sous mes yeux, pas plus tard, pas pour plus tard, sur le moment même. Et c'était pas une révolution politique, c'était une révolution sociale, une révolution individuelle, une révolution anthropologique aussi, qui était cette révolution d'un monde qui essayait de commencer à vivre sur un principe d'égalité des sexes, ce qui n'était jamais arrivé dans aucune société dans l'histoire. Et donc, il n'y avait pas de société avant la nôtre qui avait essayé de mettre cette valeur de l'égalité des sexes au cœur de ses valeurs les plus fondamentales et de se changer pour ça. Et ça, on le vivait depuis les débuts du MLF, qui n'était qu'une deuxième vague du féminisme. Il y avait eu les premières vagues, évidemment, des suffragettes, de celles qui s'étaient battues pour l'égalité des droits politiques. Mais depuis les années 70, c'était la deuxième vague du féminisme, celle qui allait s'attaquer à d'autres questions, la conciliation vie familiale, vie professionnelle, le partage des rôles dans la vie privée, dans la famille, etc. Et cette révolution-là, le fait d'abandonner justement certaines phraséologies dogmatiques d'extrême-gauche, m'en a rapproché, en fait. Et j'avais commencé à militer d'abord au MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, avec en particulier Monique Antoine, Maya Surdus, qui étaient des amis proches. 75, c'était la loi Veil, mais elle n'avait pas arrêté le MLAC pour autant, parce qu'il fallait toujours organiser pendant un certain temps l'accueil des femmes qui se trouvaient en difficulté. Et donc, ça m'avait impliqué personnellement, dans ce mouvement. Et j'ai eu la chance, au moment où je savais plus trop quoi penser de... J'étais en pleine crise, on va dire, militante, d'extrême-gauche, de me retrouver dans une petite... j'ai adhéré, j'ai rejoint une petite revue qui s'appelait La Revue d'en face, qui aurait pu être complètement oubliée, mais heureusement, il y a tout un programme en ce moment... pour numériser toutes les revues de ce mouvement féministe des années 70. Et donc, l'entièreté de cette revue est maintenant accessible sur le net. J'en profite pour faire la pub, vous voyez. Et cette revue, elle était exactement ce qu'il me fallait.
Comment ça se passe concrètement, cet engagement féministe ?
Eh ben, dans cette revue, c'était exactement ce que je pouvais rêver de mieux, c'est-à-dire c'était des féministes qui toutes étaient passées par l'extrême gauche, pas forcément les mêmes. Il y avait par exemple Nicole Lapierre que tout le monde connaît aujourd'hui pour ses travaux sur le nom, sur etc. Qui et pour l'histoire et sur les biographies, l'histoire, etc. Et qui venait elle de la Ligue. Moi, il y avait d'autres. Bon, mais on était toutes passées par l'extrême gauche à un moment quelconque. Et on en avait soupé. Et donc c'était une revue qui était très antidogmatique, où il s'agissait de pas parler en répétant des phrases, mais avec un certain engagement personnel aussi. Il y avait des rubriques d'ailleurs personnelles dans cette revue. Et surtout, c'était une bande de filles très marrantes. On riait comme c'est pas possible, et on riait beaucoup de retrouver dans le mouvement féministe lui-même quelquefois des caricatures du dogmatisme dont on avait essayé de s'émanciper. Il ne faut pas s'imaginer que c'était réservé aux petites organisations d'extrême-gauche. Hein, le féministe de ces années-là, il était lui aussi très très vivant et il était très divers.
Oui, quelle était la situation? Je pense que c'est très hétérogène.
Oui, on l'a un peu oublié. Donc c'était très vivant puisque c'était vraiment toute la redécouverte par ma génération du fait que, contrairement à ce qu'on racontait à l'époque, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Alors, ça peut paraître étrange aujourd'hui, parce que avec le recul, on se dit, mais attendez, 75, 78, effectivement, il y avait du chemin à faire pour en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais c'est féministe, mais qu'est-ce qu'elle cherche, quoi? Les gens ne comprenaient, il y avait des gens qui ne comprenaient pas qu'on soit féministe, mais elles ont tout, elles sont les égales. Elles ont leur droit de vote. Et puis maintenant, elles ont même le droit d'avortement. Donc, qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Et donc, ça n'est qu'avec le recul que maintenant tout le monde comprend l'importance des combats qu'on a menés à cette époque. Sur la vie privée, sur la contraception, sur l'avortement, sur le partage des rôles dans les couples, sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, etc. Donc, mais on menait toutes à peu près les mêmes combats, mais avec des choix idéologiques qui pouvaient être très variables. Il y avait des théories féministes qui s'affrontaient. Et qui s'affrontaient à travers des groupes. Par exemple, il y avait vraiment une partie du mouvement autour des éditions des femmes qui était ce qu'on appelait un féminisme différentialiste. Hein, les femmes avaient quelque chose à apporter parce qu'elles étaient différentes. Les femmes étaient censées, par exemple, incarner l'amour de la paix, alors que les hommes étaient dans l'amour de la guerre, valorisant toutes les différences féminines. Moi, j'étais dans une option tout à fait opposée, disons un féminisme universaliste, où ce qu'on voulait, nous, c'était ne pas être assigné à une différence, mais au contraire, devenir des individus comme les autres, ayant la même possibilité d'universel que celle que les hommes avaient déjà conquise depuis très longtemps. Donc ça, c'était une différence possible, il y en avait beaucoup d'autres. Et par exemple, à la revue d'en face, on a mené des discussions assez fortes avec un courant qui venait du marxisme, ce qu'on appelle le féminisme matérialiste, question féministe, qui a eu des militants très connus, comme Christine Delphi, par exemple, qui théorisait la situation des femmes à partir, justement, des concepts marxistes dont on essayait, nous, de s'émanciper. Par exemple, l'idée que si on voulait comprendre l'inégalité des sexes, il fallait dire que c'était la classe des hommes qui extorquait du travail gratuit à la classe des femmes, oui, à travers le travail ménager, etc. Donc, alors que c'était pas du tout évident de penser justement la spécificité des rapports de sexe en prenant justement le modèle du travail, ça ne paraissait pas forcément ce qui allait le mieux décrire ce que c'est que la division des tâches, des rôles, des statuts et les inégalités de sexe, ou on dirait aujourd'hui de genre. Et moi, j'ai eu un moment dont je me souviens très bien, qui a été un peu le tournant, c'est-à-dire que où j'ai osé dire ce que je pensais. un peu grâce à mes amis de la revue d'en face, parce que justement, on s'encourageait mutuellement à oser avoir des voix personnelles, alors qu'on avait beaucoup vécu dans ces années-là en voulant toujours mettre du « nous », hein, pas parler soi-même. Bon. Et donc, est paru un article de Colette Guillaumin, je me souviens très bien d'elle, et de cet article qui portait sur une notion nouvelle qui s'appelait le sexage. Donc Colette Guillaumin, elle est toujours très connue, c'était une théoricienne du féminisme, elle avait surtout travaillé sur l'esclavage, et elle avait fait des très bons travaux sur l'esclavage. Simplement, quand elle s'est mise à théoriser à partir de là la question des sexes, elle essayait de dire que les femmes ne donnaient pas simplement leur force de travail gratuitement, elles donnaient en fait toute leur personne, leur corps, et elle a fini par théoriser que le sexage, c'était quasiment l'équivalent de l'esclavage, l'équivalent du servage. Et là, quel sens ça pouvait avoir de nous dévoiler qu'on était des esclaves sans le savoir ? Oui. C'était exactement tout ce phénomène de dévoilement que on avait subi, je peux dire, ou auquel on avait adhéré justement dans l'extrême gauche, dans la perspective ultra-révolutionnaire de dénonciation de la démocratie, parce que c'était ça. C'était « je vais vous dévoiler » que la démocratie, c'est du bidon, qu'en fait, ça n'est là que pour que les patrons engraissent les patrons. Le droit démocratique, je vais vous dévoiler que ce n'est que le droit des puissants, et qui est fait, etc. etc. Et donc, retrouver encore une fois et pousser encore plus loin une théorisation du dévoilement, c'était pour moi insupportable. Et donc, j'ai osé l'écrire. Et à partir de là, me dire à moi-même... Mais au fond, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et j'ai commencé à me dire que ce que je pensais de ça, c'est que il y avait peut-être une toute autre façon de procéder. J'avais pas les réponses aux questions que je me posais, et qu'on se posait. J'avais pas de théorie du féminisme. Mais j'avais au moins l'idée qu'il y avait une autre démarche possible que le dévoilement. Que c'était une voie peut-être plus longue, qui consistait non pas à écarter le rideau pour dessiller les yeux des aliénés, mais qui consistait à créer des outils pour mieux voir ce qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. Et c'était une démarche presque inversée que celle du dévoilement. Et ce qui est étonnant, c'est que cette idée, en fait, a été confortée pour moi par mon amour de Genèse, par mon amour de mes 15 ans, par Proust. Parce que si j'avais suivi la voie qui m'était promise, si je m'avais pas fait cette bifurcation vers le militantisme, eh bien, après avoir passé l'agrégation, j'aurais commencé une thèse sur Proust, qu'évidemment, je n'ai jamais faite. Hein. Bien des années ont passé, mais et j'ai lu Proust à peu près toute ma vie, mais je n'ai jamais rien écrit sur lui. En revanche, je suis peut-être plus sensible que jamais à la leçon qu'il donne à la fin de la recherche du temps perdu, dans le temps retrouvé, sur le fait que la littérature, c'est une façon d'explorer la vie. Et il fait une comparaison, que je trouve magnifique, entre le romancier et l'opticien. Il dit, au fond... les gens se sont imaginés que j'écrivais pour raconter mes souvenirs d'enfance, mais bien sûr que non. J'écrivais parce que j'avais le sentiment que si je travaillais bien mon récit, c'était comme tailler des vers que j'aurais pu tendre à mon lecteur pour qu'il soit lui-même le propre lecteur de lui-même. Et donc, est-ce que il nous fait presque se représenter un opticien? Est-ce que avec ces vers-là, vous y voyez mieux? Ou est-ce que ce serait plutôt cela ou cela? Voilà. Et je trouvais que cette idée que la littérature s'était fait pour nous rendre lecteurs de nous-mêmes par un art qui est tout l'art littéraire, bien sûr, qui est l'art de saisir le particulier, mais pour lui donner, à travers une certaine façon de faire le récit, une dimension générale, universelle, non seulement qui va parler à d'autres, mais où d'autres vont être capables de trouver même ce que l'auteur n'a pas forcément mis entièrement entièrement, de le remplir nous aussi comme lecteur. Je trouvais que c'était assez formidable, même s'il y avait beaucoup de malentendus aussi sur la littérature. Par exemple, Proust disait que quand il faisait ça, il le faisait aussi d'une certaine façon, dans son exploration, un travail d'enquête sur la condition humaine, sur la condition sociale. C'est un grand sociologue, Proust, à sa façon. Et il n'a pas toujours été compris, d'ailleurs, de cette façon. Il dit « Quand je cherchais de grandes lois, on m'appelait fouilleur de détails. » Voilà. Et donc, quand j'ai cherché à énoncer comment moi, j'allais essayer de chercher une autre voie, eh bien, j'ai décidé, effectivement, de bifurquer, de ne pas faire cette thèse sur Proust, de rester dans cet engagement qui avait été le mien pendant toutes ces années-là pour les questions sociales et politiques, pour cette vie un peu plus grande que soi qui m'avait tellement touchée, et de le faire en me tournant vers la sociologie et en essayant, par la voie longue, on va dire, de l'enquête, de l'étude, d'accéder à quelque chose, moi aussi, de général.
Quel rapport entretenait cet engagement militant et puis féministe avec votre propre expérience au sein de votre famille, dans votre propre environnement familial ?
Vous avez tout à fait raison de me poser la question, parce que c'est vrai, quand on s'oppose, dans la période où j'étais, c'est-à-dire de crise, par rapport justement à mes certitudes militantes, de volonté d'être d'une authenticité, on peut dire, voilà, d'arrêter de jouer, de me confronter à moi-même, c'est vrai que parmi... j'avais pas simplement des désaccords théoriques avec les thèses du sexage. J'avais aussi... Vous savez, dans le féminisme, il y avait quand même tout un travail sur soi-même. Il y avait des groupes de parole, etc. On partait pas dans les nuages, loin de son expérience. Et moi, à cette période, et justement ces thèses du sexage, etc., c'était des thèses de dénonciation de la famille. La famille, c'était ce que la classe des hommes avait trouvé de plus intelligent pour opprimer les femmes, hein, et pour les amener non seulement à leur faire du travail gratuit, mais pour les amener à collaborer avec empressement à leur propre réification. Et donc, l'ère du temps, c'était mort à la famille. Et là, il y a une sorte d'épreuve de vérité, c'est vrai. Je venais d'une famille, j'avais été très heureuse. J'aimais beaucoup mes parents. J'avais pas eu de... Voilà, je pense que le seul moment où j'ai vraiment fait ma crise d'adolescence, c'est quand je suis devenue gauchiste, alors que mon père, comme prof de fac, avait eu à un moment un peu à souffrir de l'extrême gauche. Quand il a vu écrit son nom sur les murs de sa fac avec « La compétence est un critère bourgeois », mon père, tout à fait engagé, a souffert aussi de mai 68. Et donc j'avais un petit peu pris mon indépendance avec ce militantisme qui n'était pas dans la suite de mes parents, ou en tout cas de leurs convictions plus de l'époque. Mais comment est-ce que j'aurais... parler des femmes sans que tout ce qui me rattachait à moi-même à cette question soit effacé. Mes parents, c'était donc, mon père était prof de philo, il s'était marié en 49, et ma mère avait eu un destin que je trouve assez terrible d'une certaine façon, des femmes de sa génération, c'est-à-dire qu'elle avait fait des études longues, elle avait fait HEC jeune fille et les langues eaux. Et elle avait commencé à travailler, d'ailleurs, à la fin de la guerre, elle a été aussi traductrice pour la Conférence de la Paix. Elle avait commencé à travailler dans une entreprise, et quand elle a rencontré mon père, ils se sont mariés, et elle a tout arrêté. Elle a tout arrêté pour devenir mère au foyer, élever 1, 2, 3, puis 4 enfants. Et c'était pas du tout ce qui convenait à ma mère. S'il y avait rien de plus emmerdant pour ma mère que ça, quoi. Elle s'intéressait beaucoup à son jardin. On habitait à la campagne. Oui, les grands travaux du jardin, oui, mais alors les confitures, non. Rien de tout ça ne l'intéressait le moins du monde. Elle l'a fait avec dévouement. Mais au fond, quand elle a pu, comme on disait, retravailler après avoir élevé ses enfants, redevenir traductrice, bon, quelque chose s'est libéré chez elle. Et je me disais, voilà, je ne peux pas... quand je vous dis, je cherchais à décrire, être pour moi, c'était... Je ne pouvais pas ramener ma mère à une victime. Je ne pouvais pas oublier que sa génération avait été très, très traditionnelle et qu'en même temps, elle avait préparé la mienne. Mes parents n'ont jamais imaginé d'autre destin pour leur fille que de travailler. Vous voyez, donc ils étaient avec le mouvement de leur époque. On ne pouvait pas simplifier cette génération qui paraissait traditionnelle et qui nous préparait déjà. Est-ce que j'aurais pu simplifier le rôle de ma grand-mère ? C'était encore plus difficile parce que ma grand-mère a eu un sort beaucoup plus difficile encore que ma mère. Donc la mère de ma mère, elle est née, comme on dit, bâtarde. C'est-à-dire qu'elle est née parce que sa mère a été mise enceinte par son patron. C'était une chose qui arrivait très fréquemment à la fin du 19e siècle pour les domestiques. Et elle a élevé sa petite fille courageusement à la face de son village, sans jamais baisser les bras. Ma grand-mère a énormément souffert de ce statut. Mais c'est pareil. Est-ce que je peux me dire féministe et réduire ma grand-mère, qui a été une très forte femme, qui s'est battue toute sa vie, à simplement dire que c'était une esclave, vous voyez ce que je veux dire, une serve? Mais il y avait une liberté chez ma grand-mère incroyable. Et pourtant, elle était aussi très traditionnelle par certains points, etc. Et donc, je me disais, il faut trouver la voie juste. Il n'y a pas de justice sans justesse. Voilà. Et c'est beaucoup en pensant à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, que j'ai cherché la voie qui pourrait décrire exactement ce qu'elles avaient vécu et comment ce qu'elles avaient vécu pouvait m'amener, moi et ma génération, à essayer de changer quelque chose définitivement. Il y a une spécificité des rapports sexués, des rapports qui est une dimension de la vie sociale tout à fait particulière. Il fallait tenter de la saisir au lieu de la ramener à des schémas déjà connus de l'oppression d'une classe par une autre, etc. Et c'était là que le développement dans ces années-là de tout un mouvement, on va dire, dans l'université. Je pense à des historiennes comme Michel Perrault, je pense à des philosophes comme Geneviève Fraisse, etc. Nous sommes nombreuses, de la même génération ou à peu près, peu importe notre âge, à s'être dit, là il y a vraiment un défi à relever, c'est de comprendre cette question de la place des femmes, des rapports de sexe, des rapports de genre, comme on le dit, en reconnaissant la spécificité de ces rapports. Et c'était ça le grand défi, qu'un certain militantisme qui ramenait toujours à la question des classes, n'avait pas réussi à décrire. Et c'est là que j'ai décidé de faire un tournant, on va dire, vers les sciences sociales, comme d'autres l'avaient fait avant moi, pour essayer justement de sortir des schémas et d'aborder les choses par l'observation, par l'enquête.
Irène Théry, merci. On se retrouve donc demain.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Irène Théry. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Claude Niort, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.